Bonjour, c'est Bernard et je vous propose une évasion sur mes chemins particuliers. Aujourd'hui, en compagnie de Jean-Claude et Pascal, un couple d'artisans, d'artistes et réciproquement. I've seen trouble
all my day. Alors, ben moi, je suis Pascal Oberlet.
Voilà. Et à part ça ?
Et à part ça, ben, je fais de la peinture, de la sculpture, de un petit peu tout. Du pain, des fours à pain, on remonte des vieilles pierres, on fait un petit peu tout.
Vous pourriez me décrire le monsieur qui est là, là ?
Alors, le monsieur qui est là, c'est mon mari, hein. C'est Jean-Claude. Et alors, lui, ben, c'est le côté tournage sur bois. Lui, il fait des stylos.
Vous pourriez me le décrire physiquement ?
Ah, physiquement ?
Il est comment, votre mari ?
Ah, il est très...
Hétéroclite. Il est hétéroclite, oh, bah oui, tu parles.
Et autodidacte.
Non, je dirais...
Mais comment ?
Ah, c'est peut-être un gnome, je pense, qu'il est sorti... Il ressemble un petit peu aux esprits de la nature, il est un
moi,
petit peu comme ça.
Je ne suis pas descendu de l'arbre, mais je sors des arbres.
Voilà.
Est-ce qu'il est beau ?
Ah ouais, il est beau. Ouais. Et puis il est gentil, il est... Ah ouais, non, il y a quelque chose...
Bon.
Il y a quelque chose qui ressemble un petit peu à Blanche-Neige et les Sept Nains, ou des choses comme ça.
Dans, voilà. Dans quel rôle de Blanche-Neige voilà. Ou des Sept Nains on saura ça plus tard.
C'est un petit peu féerique. Mais enfin bon, moi, comme je vois toujours de la féerie partout, il ne faut pas chercher à comprendre. C'est un peu compliqué chez moi. Alors, on est à Bar des Cévennes. Et on est sur une très ancienne ferme, très certainement l'une des plus anciennes fermes de Bar.
Avec le château à l'intérieur, ouais. Hein. C'est une ferme fortifiée. C'était une des plus grandes propriétés de Bar agricoles à l'époque, hein, quand on remonte à quelques siècles en arrière. Elle date du 15e à peu près, d'après les différents archéologues qui sont passés, les copains. Là. Donc, mais à mon avis, elle date même d'avant, hein, puisqu'on a retrouvé des morceaux de poterie ou de tuyaux en terre, ce qui laisserait dire qu'à l'emplacement, ici ou pas loin, il y avait une villa romaine. Parce que les Romains étaient là, hein, on sait qu'il y a eu un général romain qui était à Saint-Laurent-de-Trèves, hein, qui est venu prendre sa retraite là. Donc, si lui, il était là, il n'était pas tout seul. Hein, il avait des compatriotes avec lui. Et je pense qu'on est ici sur une ancienne, comme de beaucoup de maisons d'ailleurs, hein, d'anciennes fermes, sur une ancienne villa romaine. Mais pour retrouver les vestiges, ce n'est pas évident, hein, parce qu'il y a tellement eu des constructions. Ils ont eu beaucoup de pierres à l'époque donc, pour faire cette immense bâtisse. Et à court fermé, parce que, soi-disant, pour les loups. Alors, il n'en reste plus qu'un et demi en Lozère actuellement, hein, mais à l'époque, il devait y en avoir un peu plus. Je dis un demi parce qu'il y en a un qui n'y est pas tout le temps, hein, ouais. Il paraît-il.
Ah bah oui.
C'est, pas, ouais, oui. C'est pour ça qu'on dit un et demi.
Ah bon.
Ouais.
C'est pas vous.
Ah, non,
c'est pas moi qui l'ai dit. Hein.
Non, c'est le loup, c'est pas vous.
Ah, pas tout le temps.
Et c'est là que vous vivez.
Et c'est là qu'on vit depuis 5 ans. Hein. On est arrivé il y a 5 ans. Et puis on rénove. Le maximum à nous deux, parce que vraiment, bon, parce que sinon on n'aurait pas les moyens de le faire.
On est dans la cour intérieure.
C'est une cour intérieure, on va dire, un petit peu classique des maisons de Cévenol, hein, puisqu'on est né à la limite entre les deux, mais on est quand même sur les Cévennes, on n'est pas sur le mont Lozère. On n'a pas de granit ici, on n'a que de la loze. La loze est calcaire, c'est les deux seuls matériaux qu'ils avaient. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit une partie des maisons qui sont en schiste. Et après, je pense qu'ils avaient un peu plus de moyens, donc ils ont pris du calcaire parce qu'ils l'ont taillé. Et c'est pour ça que la dernière partie, on le voit ici dans la cour, où progressivement, hein, on démarre du 15e siècle avec les fenêtres à meneaux, mais très basiques, hein, c'est pas un château. Hein, mais après, progressivement, on voit qu'ils ont monté, ils ont fait d'abord une maison, une partie, puis ils ont refait une autre bergerie, très certainement que ça s'est un peu agrandi, la propriété. Puis après, ils ont surélevé. On voit que là, il y a eu une surélévation qui a été faite. Et pour finir, donc, avec la dernière bergerie, avec une voûte en pierre magnifique, toute en pierre sèche.
Oh là,
et tout le dessous sont des bergeries. Alors la propriété, à l'époque, était avec 350 hectares de terre. Pour ici, c'est quand même...
C'est énorme.
C'est pas mal.
Énorme. Hein,
c'est énorme. Ouais. Mais cette ferme n'a pas eu la chance d'avoir des propriétaires qui sont restés longtemps. Chaque fois, c'est hérité des descendants qui avaient ça, alors des petits cousins ou autres. Donc ça a toujours été des fermiers, la plupart du temps, ils sont les derniers, des fermiers ou des bailleurs. Et la ferme donc, a moins été entretenue, qu'à l'époque, soi-disant, c'est un avocat du roi au XVIe siècle qui aurait fait construire la petite échauguette qui est devant.
L'échauguette, c'est quoi ?
C'est une petite tour, une petite escroissance sur la maison.
Une tour d'angle ?
Voilà, une tour d'angle, une tour d'angle. Ouais. Mais c'est pas très grand en fait. On s'y tient debout dedans, mais c'est plutôt un placard ou un truc comme ça. Il n'y a pas d'ouverture sur l'extérieur, donc ça sert pas à la défense. C'est un peu le côté esthétique, un peu le fait de se dire je vais me la péter. J'ai autant de à l'époque j'ai autant de sous que toi le petit noble d'à côté quoi, qui était le château des Balmes et au village. Il y a le château des Balmes, il y en a une et au village l'ancien château parce que
signe extérieur de prestige.
Exactement. Et puis un avocat était pas forcément un noble, c'était une famille bourgeoise, un riche. Et donc c'était, pense que c'est surtout pour ça que ça a été fait. Après, bon, ça n'a jamais trop servi. Peut-être qu'ils se disent qu'ils en faisaient un frigo, parce que comme c'est à l'extérieur, c'est vrai qu'on pouvait y mettre, c'était toujours au frais.
Oui. D'accord.
Mais bon, ça c'est nous après. Mais il y a plein d'éventualités qui se...
Une échauguette. J'aurais au moins appris un mot ce matin, mais j'ai l'impression que je vais en apprendre beaucoup de mots nouveaux. Et c'est là que vous vivez. Donc c'est votre lieu de vie.
Ah oui, c'est notre lieu de vie, notre lieu de travail.
Ah ben voilà, oui.
On visite l'atelier.
Allez,
on fait un peu le tour.
Ouais.
Dans l'atelier.
Hein, voilà. D'accord. Oh, alors, ça sent.
Qui était une ancienne bergerie voûtée. Hein, c'était tout voûté. C'était des
fermes costaudes.
Alors là, j'ai aussi oublié de fermer derrière nous parce qu'on a des hirondelles qui nous suivent en permanence. D'accord. Donc elles entrent partout où on entre. Donc on est obligé de se tenir fermé.
Ah, oh, ça sent bon. Enfin, ça sent le bois.
Ah oui, là, ça sent le bois.
Ah, alors, bah, écoutez, si, moi j'ai envie. Vous voulez pas me parler des odeurs ? Des parfums du bois.
Alors c'est surtout le cadre qu'on ressent. Parce qu'on utilise pas mal de cadre et le cadre, ça a vraiment un parfum très, 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 très fort, très prenant comme ça.
Ça vient d'où le cadre ? C'est quoi ?
Le cadre, c'est un genévrier. C'est le Juniperus cadre. Mais qui ne pousse pas un peu plus bas en altitude. Ici, on a le genévrier commun, mais qui est moins résistant que le cadre. On se rend compte, nous, que le genévrier commun a tendance à pourrir à la longue dans les bois ici, alors que le cadre, il broche pas, lui.
C'est imputrescible.
C'est imputrescible, totalement.
Voilà, mais c'est vrai qu'il pousse, je dirais, jusqu'à 700 mètres d'altitude. Alors, mais comme c'est un bois qui est assez intéressant, parce que c'est un intimite naturel, donc il refoule les papillons, puis on en fait de l'huile de cadre.
Oui, ça sent ce qu'on met sur les ânes pour éloigner les temps.
Et puis pour soigner tout ce qui est mycose ou autre, champignons et compagnie, au niveau des pâtes, au niveau des... on en fait de l'huile essentielle, parce qu'on s'en sert aussi dans la médecine naturelle.
Ça a quelle allure, là ? Vous pouvez me montrer un bois de...
Un bout de...
Un morceau de bois de cadre.
Voilà, c'est ça,
c'est
bon. Voilà.
Allez.
Voilà.
Alors, ben...
Donc, voilà, c'est... Voilà l'intérieur.
Alors oui, donc là, j'ai dans les mains
une branche.
Une branche.
Ouais.
Et Pascal me montre une tranche.
Voilà.
Alors, ça ressemble un petit peu au tuya, on va dire, extérieurement. C'est un peu la même légèrement le même aspect que le tuya, qui est aussi très odorant, en fait. À croire que tous les arbres qui ressemblent un petit peu à ça, il y a l'eucalyptus aussi, qui a une écorce qui, après, se lisse, mais qui a tendance, comme si elle voulait se décoller en lamelles, comme ça.
D'accord.
Mais c'est bizarre, moi j'ai remarqué que tous ces arbres comme ça, qui ont des écorces qui s'enlèvent en lamelles, sont très odorants.
Et alors, la tranche, elle ressemble à quoi ?
Alors, c'est vrai qu'elle a deux couleurs. Il y a vraiment le centre qui est très rouge.
Voilà, et l'aubier est blanc.
Et l'aubier est blanc.
Et, voilà. Et puis, ce qu'il y a, c'est que le cadre, c'est génial. Je vais en trouver un morceau là-bas. C'est qu'on se rend compte avec le cadre de l'utang qu'il a fait.
Ah
oui, on voit tout dans le cadre.
Le cadre nous donne la météo.
Alors,
allons-y.
Il a toujours des formes assez surprenantes.
On a une tranche de cadre dans les mains.
Voilà. Et donc, il y a plein de saignées, on voit dedans. C'est pas circulaire, c'est pas régulier. Il a toutes les formes. Et en fait, ça, c'est les caprices du temps. Ça, c'est un coup de gel.
C'est-à-dire qu'il y a un creux, là, il y a une incurvation.
Voilà, il y a une incurvation. Ça veut dire que là aussi, Avec le cadre, on pourrait lire la météo, parce que ça, c'est un arbre qui fait quoi, allez, on va dire, entre 12 et 15 cm de diamètre, puisqu'il est pas rond, hein. Mais c'est un arbre qui doit avoir une cinquantaine d'années déjà.
Et donc ça nous donne la météo rétrospective.
Voilà,
ah ouais, ça là, nous on dit peut pas dire
le temps qu'il fait. Il est né. Là, donc, si on va dire qu'il a une cinquantaine d'années, là, on en est à 30 ans ou 35 ans. Ça veut dire qu'il y a eu un coup de gel, là, à cette époque-là.
Donc, avec la tranche que nous avons dans les mains, nous pouvons dire qu'il y a 35 ans, il a gelé.
Il a gelé pas mal.
À l'endroit où vivait ce genévrier.
Voilà, ce genévrier.
Ouais. D'accord.
C'est assez sympa pour ça. Parce que...
Mais peut-être que ça intéresse les scientifiques, non, je sais pas.
Ah, mais ils sont déjà passés. Oui, bien sûr. De la même façon qu'ils font les carottes et qu'ils regardent ce qu'il y a dedans. Dans les arbres, on peut très bien savoir. Et on arrive à retrouver les gelées des années 50 dans les arbres qu'on coupe maintenant, parce qu'on a beaucoup replanté après les années 50, les années 60. Ouais. Pour quelle raison? C'est aussi parce que ça a beaucoup gelé.
Ouais. Ouais,
tout ce qui est fruitier avait gelé, et puis dans les montagnes également, les fruitiers, les pommiers et autres. Et on a replanté, mais beaucoup de résineux, dans les années 60. Et du coup, tous les arbres qui étaient plantés avant, on se rend compte qu'ils ont souffert, mais qui étaient relativement jeunes, qu'ils ont souffert à cette époque-là. Parce que ça a ouvert les arbres, ça les a éventrés, la sève est sortie, et du coup ça s'est refermé, c'est une cicatrice en fait. Et, mais on voit que la cicatrice elle s'est faite tout autour, mais elle est restée morte à cet endroit-là. Donc ça n'a plus poussé comme ça, mais ça a poussé autour.
Autour. En plus ça doit donner des formes assez, qui sur le plan esthétique, qu'on peut interpréter de...
Ah oui, il y a des formes de cœur, souvent des formes de cœur je trouve dans le cadre. Mais justement parce qu'il y a ces stries là qui font que ça...
Ah oui, on peut imaginer.
Et bien souvent, des fois, il y a un petit départ
de
branche. Alors, ça fait un fruit, ça fait... Le cadre est assez miraculeux pour ça. C'est un bois magique.
Ça peut susciter l'imagination et la création.
Ah ben oui, parce qu'au début, moi, je le recoupais, je le redébitais. Puis de plus en plus, j'en fais des tranches parce que les gens sont friands de ça. Ils aiment bien. Eux s'imaginent pas forcément ce que nous, on voit. Hein, mais c'est presque... Il y a presque Mickey qui se dessine là, il y a les oreilles, le nez, fait bon. Il y a plein de choses qui font. Et c'est vrai que c'est un bois qu'on aime bien travailler parce que
le cadre.
Il y a l'odeur et puis c'est un désodorisant aussi fantastique. Hein. On s'en sert là, on récupère tout dans le cadre, la sciure de cadre, on la fait brûler comme l'encens et ça désodorise totalement l'ambiance pour la fumée, les odeurs de poisson en cuisine, n'importe quoi.
De friture, etc.
De friture, hein, c'est un truc.
Et là, vous fabriquez quoi, en fait, là? Parce qu'on a vu le bois, mais vous faites quoi avec ce bois?
Disons qu'on commence avec un morceau de bois, elle y voit quelque chose dedans. Ouais, tout le monde a envie d'y créer quelque chose. Moi, les morceaux qu'elle n'utilise pas, je les utilise, j'en fais des stylos. Ouais.
Des stylos?
Des stylos en bois. Ouais, donc, stylo bille, stylo plume, stylo feutre, enfin, roller. Et après, les morceaux que moi, je n'utilise pas, elle en fait des bijoux, en bois toujours. Et on va dire qu'après, il restait le déchet qu'on a. Hein. Et le déchet, nous, on le met aux chevaux, parce qu'on fait les boxes avec la sciure, hein. C'est à la place de la paille. Incroyable. Et ça repart au jardin, et ça redémarre pour des cycles de plus. Donc, et s'il y a des morceaux qui sont vraiment un peu gros et qu'on peut brûler, eh bien, on s'en sert parce qu'on se chauffe au bois aussi. Donc tout est utilisé, quoi. En fait, on ne perd pas, on ne perd rien, on ne laisse pas. Il y a du bois qui traîne un petit peu de partout dehors, mais il est en attente de trouver sa seconde vie. Et puis bon, c'est vrai qu'on fait des planches aussi, hein, parce que bon, on fait du meuble, on fait plein de trucs. Moi, j'ai besoin de planches aussi pour faire du tournage. Ouais, mais c'est vrai que ça démarre comme ça. Elle fait soit de la sculpture, soit si le morceau est assez grand, j'en débite des planches. Parce qu'on a la chance d'avoir une scierie sur barre des Cévennes. Donc moi, je peux amener, couper mes arbres. Je ne les coupe pas. J'attends, ils tombent tout seuls, c'est-à-dire que c'est le vent qui les déracine. Hein. Ou alors vraiment, il est au milieu, il faut qu'on fasse un passage pour X raisons. Mais je n'irai pas couper un arbre pour faire une sculpture ou un stylo. Je trouve que c'est dommage quand même.
Ah, d'accord.
C'est notre philosophie. Donc on attend plutôt, il y a des gens qui viennent nous voir, qui nous disent... on a tel bois, est-ce que ça vous intéresse? Parce qu'on trouve que c'est dommage de le brûler ou de le laisser pourrir dans un coin. Alors j'en achète aussi, là, je vous montrerai en bas, là, j'ai un superbe morceau de buis, je trouve que ça a été dommage de le couper, mais je n'ai pas pu m'empêcher de l'acheter, parce que même si le prix n'était pas forcément intéressant pour moi, mais c'est un arbre, on n'en voit jamais des arbres comme ça en buis. Thank you.
Pourquoi le bois ? Parce que ça aurait pu être l'acier, enfin la ferraille, la terre. Oui. Mais pourquoi le bois ?
Alors moi, au niveau sculpture, il y a une raison toute simple, c'est que c'est le seul matériau qui permette une telle résistance et de faire de la sculpture en finesse et qui résiste. Parce que et puis bon, le contact aussi, le contact, la douceur, le toucher, la chaleur, c'est tout un symbolisme pour moi un petit peu, c'est très sensuel, voilà, c'est ce côté très sensuel, très, très sensitif du bois, très, où on a vraiment, on peut créer des formes, et ça résiste, ça tient.
Et ça va chercher ses racines loin dans, je sais pas, dans vos...
Ah oui,
vous êtes né dans le bois, non ? Vous
venez pas du tout. Vous venez du bois ? Ah non, alors pas du tout. Enfin, moi, je suis née en ville et j'en ai souffert. Je ne voulais pas rester du tout en ville parce que pour moi, la ville, c'est complètement antinaturel, quoi. Il n'y a rien de naturel. Et j'ai eu qu'une idée en tête, c'est de venir dans la nature, justement, et retrouver mes racines, et donc les racines dans la forêt.
Donc vous n'êtes pas née dans les bois ?
Ah non, je ne suis pas née dans les bois, mais j'y suis venue volontairement.
Il y avait le roi des zones et nous avons la reine des cades.
Voilà.
Bon, donc un atelier. Alors, il y a des machines, peut-être pas, si on les décrit, on va en parler.
Il y a un peu de tout.
Il y a des scies circulaires ou à ruban, il y a des tours. Ouais. Tours à bois, puisque moi j'en ai besoin.
Bien sûr.
Des outils de sculpture, des gouges.
Voilà, des outils de ponçage. Il y a un outil de ponçage, un noir. Voilà, puis après, c'est les outils manuels à gouge ou électroportatifs, on va dire, et puis les outils qui nous facilitent un peu la vie.
À propos des outils à main, est-ce que vous n'êtes pas allé jusqu'à les fabriquer ?
Disons qu'on a des copains qui, quand on a vraiment besoin d'un peu spécifique, qui peut nous le fabriquer. On a un petit ferronnier sur les villages.
Ouais.
Et si vraiment on a un outil qui nous manque, parce que des fois, on n'arrive pas à l'avoir, il faut le commander. En France, on était les maîtres des ciseaux à bois. Et la usine a fermé il y a 5-6 ans, pas eu de repreneur, ce qui fait qu'on est obligé de passer avec des outils étrangers qui ne sont pas forcément adaptés et puis d'aussi bonne qualité.
Et est-ce que vous, les outils que vous employez, vous les adaptez à votre main ? Ou est-ce que ça se fait comme ça ou...
Oui, mais disons que c'est plutôt nous qui nous adaptons
à
l'outil.
C'est plutôt nous qui nous adaptons à l'outil, je pense.
Il y en a une telle quantité d'outils différents, on ne s'en rend pas compte. Que ce soit une sculpture ou un tournage, c'est des gouges toujours qu'on utilise. Mais il y en a une quantité innombrable. Hein. On en voit toujours 5, 6, 10, mais il y en a des centaines.
Les outils anciens sont très très bien étudiés. Ils ont vraiment été façonnés par l'homme pour servir dans un but bien précis.
Et bon, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup. Le même outil est décliné en plusieurs modèles, avec des angles différents, parce que pour des utilisations bien précises. Il faut s'y reprendre plusieurs fois avec la même, mais on n'a pas l'angle parfait qu'on voudrait avoir. Et c'est surtout en ébénisterie là, qu'on a créé tous ces outils-là. Pour la sculpture, le mouvement est un petit peu plus libre, on va dire. Il y aurait une fortune, hein, parce que il y en a... Dans chaque gouge, ça part de 90 degrés, enfin, de 180 jusqu'à 90, mais les angles. Donc il faut imaginer que ça peut être de degré en degré. Donc on pourrait pratiquement en faire 180 de chaque catégorie.
Pour un même type de...
Pour un même type d'outil.
D'utilité, d'usage.
Voilà, oui, d'usage, parce qu'on ne creuse pas de la même façon, on ne donne pas la même forme. Ou alors il faut s'y reprendre plusieurs fois avec la même, mais on n'a pas l'angle parfait qu'on voudrait avoir. Et c'est surtout en ébénisterie là, qu'on a créé tous ces outils-là. Pour la sculpture, le mouvement est un petit peu plus libre, on va dire.
Vous rentrez dans votre atelier, qu'est-ce que vous ressentez ?
Le calme du lieu. Ce calme du lieu, il nous inspire. Il nous crée vraiment des envies de création nouvelle, de faire... vraiment, c'est un lieu d'inspiration pour nous.
Ici, quand on arrive, on sort de la maison, on a les tracas journaliers, enfin, quotidiens. On arrive à l'atelier, on pense au boulot, on ne pense plus qu'à ça.
On est libre, on est libéré, je crois.
Ah oui, c'est on pense uniquement à ce qu'on va faire, à ce qu'on doit faire.
Vous vous rendez compte de ce que vous venez de dire, que le travail libère ?
Ah, exactement.
Et oui. Et le lieu aussi.
Oui, parce que parce qu'on a envie d'y venir.
Voilà, ce lieu revit. Et on a vraiment envie de le faire vivre.
C'est nous qui l'avons façonné comme ça, on l'a voulu comme ça.
pourrez pas me montrer quelque chose que vous fabriquez là?
Une sculpture peut-être?
Oui, une sculpture.
Tout ce qui est stylo est enfermé dans le camion parce qu'on revient de marché.
D'accord. Ah oui,
on repart demain.
On reparlera de marché si on a un petit moment.
Voilà.
Donc une sculpture, allez. On quitte l'atelier et on rentre dans la maison d'habitation.
Non, on rentre dans le gîte.
On rentre dans le gîte, ah oui,
parce qu'on a un gîte, parce qu'on est formateur et qu'on a fait un petit gîte pour accueillir les stagiaires et aussi pour accueillir des randonneurs de passage. Pourquoi pas?
Formateur de quoi?
Ben dans notre métier, tournage, sculpture,
d'accord, oui.
Peinture, meuble peint, voilà.
D'accord.
Dans notre,
alors là, on est devant une pièce. Qu'est-ce qui a réalisé ça? C'est vous, Pascal?
Oui, alors c'est moi
qui ai réalisé ça. C'est le gîte qui nous sert en même temps d'une exposition pour les stables, parce que notre
c'est
lieu d'exploitation.
C'est l'alisier, voilà, si vous préférez. C'est le... Bon, ce bois-là, il vient du Gard. Hein. C'est un alisier qui vient de la région de Sauve, hein, parce qu'on fait des fourches de Sauve avec le même bois.
D'origine.
Voilà. Et c'est un bois qui se travaille assez facilement, qui est agréable et qui a une belle veinure grise. Et... Alors là, c'est un petit peu imaginaire. Et...
Au départ, c'était
alors,
quoi?
Au départ, c'était une branche pleine, un bois plein. Il faut s'imaginer un bois plein dans lequel j'ai imaginé une forme. Donc moi, j'aime beaucoup le figuratif, donc c'est souvent des formes figuratives. Mais... figurative, mais en même temps mythologique, mélange avec un petit peu quelque chose d'irréel, fantastique.
Donc on a une forme pleine et on enlève de la matière.
Et on enlève de la matière, voilà.
C'est donc, pas angoissant, ça?
Si, c'est angoissant parce que des fois ça casse et il faut changer.
Et puis peut-être des fois qu'on enlève trop.
Et voilà, des fois on en enlève trop. Et il faut aller très très doucement, justement, pour vraiment arriver à ce qu'on veut aboutir, ce qu'on veut obtenir.
À quel moment vous sentez la nécessité d'arrêter d'enlever de la matière?
Ben, je dégrossis la forme. Une fois que j'ai à peu près la forme qui m'intéresse visuellement, j'arrête. Et là, après, je change d'outil. Après, je vais attaquer avec des outils rotatifs pour faire du ponçage, parce que je m'aide quand même pas mal d'outils rotatifs au niveau du ponçage. Et en dernier lieu, je finis le ponçage à la main, avec du papier à poncer.
Et une sculpture, ça se fait d'une traite ou alors...
Ça se fait très lentement, ça se mûrit. Voilà, ça se mûrit, ça peut prendre des mois, des fois. Là, je suis sur une sculpture, ça fait plus d'un an que je l'ai commencée. Mais bon, petit à petit, elle vient, j'enlève de la matière. Je peux pas y travailler 8 heures par jour. Ça va être une heure par jour,
ouais.
Et puis je laisse et je reviens le lendemain et ainsi
de suite. C'est une démarche qui va toujours dans le même sens.
Oui.
On ne rajoute pas de la matière.
Et... vraiment, l'idée, elle est dans ma tête au départ. C'est-à-dire, vraiment, je veux définir une situation, enfin, je veux représenter quelque chose vraiment qui est dans ma tête, qui est à l'intérieur de moi, une impression que je veux transcrire donc en sculpture. Et ça part de là. Donc, je cherche le bois dans lequel je vais pouvoir rentrer ce que j'ai vu dans ma tête. Voilà.
D'accord. Mais est-ce qu'il arrive que le projet évolue?
Oui, ça peut évoluer parce que justement... dans le bois, on a toujours des surprises. Il peut y avoir un nœud à un endroit, un morceau qui casse. Donc, on est obligé de modifier un petit peu ce qu'on a voulu faire au départ. Mais bon, en général, on arrive à toujours récupérer. Puis, il y a toujours suffisamment de matière pour arriver à sortir quelque chose.
Donc, ça suppose une grande souplesse psychologique, j'ai envie de dire.
Oui, il faut accepter de changer au cours de la sculpture, de changer de perspective. Quoi.
Et Jean-Claude, est-ce que dans la vie, elle est aussi souple qu'en sculpture?
Oui, ça va. Elle est là, je peux pas dire le contraire.
Bien, on continue. Il y a des peintures.
Il y a des peintures, voilà. Mais c'est aussi l'autre côté de Pascal.
Voilà,
Pascal.
C'est mon côté, ça, voilà. Toujours
ce qui est
côté un peu fantastique.
Moi, je suis le basique, moi.
Oh, on en reparlera de ça, l'artistique, l'artisan. Donc là, alors, sculpture, peinture.
Alors, les peintures, toujours un peu imaginaires aussi, un peu fantastiques. Toujours dans mes rêves. Toujours influencées par les esprits de la nature aussi. Cette nature qui est toujours présente chez moi, toujours... très, très ancré.
Les esprits de la nature.
Oui, les esprits de la nature.
Quesaco.
Voilà, avec les esprits de la nature, c'est un peu les gardiens de la terre, en réalité. et qui nous lance des signaux d'alarme très forts en ce moment pour nous dire il faut garder cette terre intacte, il faut la préserver. Et ça ressort toujours dans mes peintures de cette façon-là. Il y a toujours un petit peu de cette sensibilité à cette préservation de la nature, surtout arrêter la destruction.
On peut peut-être laisser un silence là. et à part sur votre lieu de vie, vous exposez, vous avez des...
Oui,
des lieux d'exposition, où est-ce qu'on peut vous...
Voilà, alors moi, les...
voir vos réalisations.
Voilà, ben les réalisations, il faut nous suivre, hein, parce qu'on expose beaucoup dans les rues, dans les petits marchés, dans les... On n'aime pas trop les galeries, parce que si vous voulez exposer dans une galerie, c'est déjà... Un galeriste influence le public qui reçoit. Enfin, dans ma perspective, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'il sélectionne certains artistes qui lui plaisent à lui, et il influence les clients, dans le sens où il les oriente vers un artiste qui va être plus ou moins bien vu, qui va bien vendre, qui va bien se vendre. Et pour moi, ça devient un marché. Et pour moi, l'art, ce n'est pas un marché, ce n'est pas une marchandise. C'est plus une expression de notre sentiment profond. Ce n'est pas seulement un objet de décoration, c'est vraiment une expression de ce qu'on ressent.
En même temps, on vend ce qu'on réalise. Vous vendez,
oui.
Jean-Claude, vous vendez vos...
Oui. Oui, mais c'est pas pareil. Elle y met beaucoup plus ses tripes que moi, ce que j'y mets quand je fais des stylos ou des bols ou des trucs comme ça, un tournage. C'est pour ça que moi, c'est plus artisanal. C'est la différence entre l'artisanat et l'artistique.
Alors bah, allons-y directement. Est-ce que vous êtes des artisans ou des artistes ?
Moi, j'ai plus le côté artistique où vraiment j'ai besoin de m'exprimer. J'ai toujours eu ce besoin de m'exprimer.
Ouais, mais en même temps, Jean-Claude, il s'exprime aussi.
Oui,
mais c'est pas pareil.
Comme au niveau de l'écriture, si vous voulez.
Oui.
Si on fait une dictée, on écrit. Et si on écrit un poème, on écrit aussi. C'est la différence entre la dictée et le poème.
Celui qui fait un livre et celui qui fait une dictée, quoi, en fait. Donc il y a un monde entre les deux. Il y en a un qui copie, qui recopie exactement ce qu'on va lui dire. Plus ou moins, ça, c'est l'artisan. Et puis il y a celui qui va créer le livre, qui va créer la dictée. Enfin, la dictée est toujours sortie d'un livre. Et là, c'est l'artiste. C'est la différence qu'il y a entre les deux.
Ouais, et bien moi, vos explications sont claires, mais pour moi, vous êtes, il va falloir trouver un troisième mot pour mélanger l'artisan et l'artiste.
Voilà, hein, c'est l'artisan créateur. Voilà le troisième mot, en fait.
Ça, j'aime bien.
Voilà, et l'artisan créateur, c'est celui qui fabrique ses propres pièces, déjà. Parce que actuellement, quand on voit sur un marché artisanal, eh bien, il a d'artisanal que très lointain. C'est des gens qui achètent, c'est des commerçants. Ils achètent des produits à des artisans, c'est un fait, mais ils les revendent. C'est pas eux qui créent.
Artisan créateur.
Créateur. Et en ce moment, on se bat pour ça. On se bat gentiment, pour l'instant. Hein. Non, je rigole. Mais c'est vrai qu'on se bat beaucoup pour ça parce qu'il y a des gens qui se disent artisans. C'est vrai qu'ils sont déclarés à la chambre des artisans. Mais en fait, ils ne sont pas du tout créateurs. Ils sont revendeurs. Et ça, c'est dommage parce qu'on perd notre savoir-faire.
On va dire que Jean-Claude est artisan, que Pascal est artiste. Mais dans un couple, parce que vous formez un couple, il y a monsieur, il y a madame et il y a le couple.
Voilà.
Voilà.
Ouais, mais c'est ça.
Donc le couple, c'est artisan-créateur. Le monsieur,
c'est artisan.
Est artisan. Et la dame,
c'est artisan.
Elle est artiste. Et on a fait... Oh, ben, c'est magnifique.
Voilà. Il y a les trois composantes qui fait que...
On retourne dans l'atelier.
On retourne dans l'atelier. Alors nous, on peut nous joindre déjà sur notre site internet. Alors www.imaginater, alors imaginater2re, imaginater de ce mot.fr. Et le téléphone 04 66 45 72 24. Mais on est sur l'annuaire, hein. Pascal et Jean-Claude Auberlé, A-U-B-E-R-L-E-T. Donc il n'y a aucun souci pour nous trouver. Quand vous tapez gîte, barre des Cévennes, les combes, vous verrez Google, de suite, il y a une petite flèche, un petit bonhomme, et vous êtes orienté sur la ferme.
Un grand merci à Jean-Claude et Pascal pour leur hospitalité et leur disponibilité. Chez eux, tout est en bois, sauf la parole et le cœur. À bientôt sur d'autres chemins particuliers.